Les frères Karamazov, première partie, livre 2, chapitre 7. Un séminariste ambitieux. Alyosha conduisit le staré dans sa chambre à coucher et le fit asseoir sur le lit. C'était une très petite pièce, avec le mobilier indispensable. Le lit de fer étroit n'avait qu'une couche de feutre en guise de matelas. Dans un coin, sur un lutrin, près des icônes, reposer la croix et l'évangile. Le staré se laissa choir à bout de force. Ses yeux brillaient, il haletait. Une fois assis, il regarda fixement Alyosha, comme s'il méditait quelque chose. « Va, mon cher, va. Porphyre me suffit. Dépêche-toi. On a besoin de toi chez le père abbé. Tu serviras à table. »« Permettez-moi de rester, » proféra Alyosha d'une voix suppliante. « Tu es plus nécessaire là-bas, la paix n'y règne pas. Tu serviras et tu t'y rendras utile. Viennent les mauvais esprits, récite une prière. Sache, mon fils. » Le staré aimait à l'appeler ainsi. « Qu'à l'avenir, ta place ne sera pas ici. Rappelle-toi cela, jeune homme. Dès que Dieu m'aura jugé digne de paraître devant lui, quitte le monastère. Pars tout à fait. » Alyosha tressaillit. Qu'as-tu? Ta place n'est pas ici pour le moment. Je te bénis en vue d'une grande tâche à accomplir dans le monde. Tu pérégrineras longtemps. Tu devras te marier, il le faut. Tu devras tout supporter jusqu'à ce que tu reviennes. Il y aura beaucoup à faire. Mais je ne doute pas de toi. Voilà pourquoi je t'envoie. Que le Christ soit avec toi. Garde-le. Et il te gardera. Tu éprouveras une grande douleur, et en même temps tu seras heureux. Telle est ta vocation. Cherchez le bonheur dans la douleur. Travaille, travaille sans cesse. Rappelle-toi mes paroles. Je m'entretiendrai encore avec toi, mais mes jours et même mes heures sont comptés. Une vive agitation se peignit sur le visage d'Alyosha. Ses lèvres tremblaient. « Qu'as-tu de nouveau ?» sourit doucement le staré. « Que les mondains pleurent leur mort. Ici, nous nous réjouissons quand un père agonise. Nous nous réjouissons et nous prions pour lui. Laisse-moi, je dois prier. Va et dépêche-toi. Demeure auprès de tes frères, et non pas seulement auprès de l'un, mais de tous les deux. » Le staré leva la main pour le bénir. Bien qu'il eût grande envie de rester, Alyosha n'osa faire aucune objection, ni demander ce que signifiait ce prosternement devant son frère Dmitri. Il savait que s'il l'avait pu, le staré le lui eût expliqué de lui-même. S'il se taisait, c'est qu'il ne voulait rien dire. Or, ce salut jusqu'à terre avait stupéfié Alyosha. Il y voyait un sens mystérieux, et peut-être terrible. Une fois hors de l'enceinte de l'ermitage, son cœur se serra et il dut s'arrêter. Il lui semblait entendre de nouveau les paroles du staré prédisant sa fin prochaine. Ce qu'avait prédit le staré avec une telle exactitude devait certainement s'accomplir. Alyosha le croyait aveuglément. Mais comment demeurerait-il sans lui, sans le voir ni l'entendre? Et où irait-il? On lui ordonnait de ne pas pleurer et de quitter le monastère. Seigneur, depuis longtemps, Alyosha n'avait ressenti une telle angoisse. Il traversa rapidement le bois qui séparait l'ermitage du monastère et, incapable de supporter les pensées qui l'accablaient, il se mit à contempler les pins séculaires qui bordaient le sentier. Le trajet n'était pas long, 500 pas au plus. On ne pouvait rencontrer personne à cette heure. Mais au premier tournant, il aperçut Rakitin. Celui-ci attendait quelqu'un. « Serait-ce moi que tu attends ?» demanda Alyosha quand il l'eut rejoint. « Précisément, » dit Rakitin en souriant. « Tu te dépêches d'aller chez le père abbé. Je sais, il donne à dîner. Depuis le jour où il a reçu l'évêque et le général Pakatov, tu te rappelles, il n'y avait pas eu un pareil festin. » « Je n'y serai pas, mais toi, vas-y, tu serviras les plats. »« Dis-moi, Alexeï, je voulais te demander ce que signifie ce songe. »« Quel songe? Mais ce prosternement devant ton frère Dmitri, et comme il s'est cogné le front!
Tu parles du père Zosime?
Oui.
Le front?
Ah, je me suis exprimée irrévérencieusement, ça ne fait rien. Eh bien, que signifie ce songe?
Je l'ignore, Micha.
J'étais sûre qu'il ne te l'expliquerait pas. Ça n'a rien d'étonnant, ce sont toujours les mêmes saintes balivernes.
Mais le tour était joué à dessein. Maintenant, les bigots vont en parler dans la ville, et le colporter dans la province.
Que signifie ce songe?
À mon avis, le vieillard est perspicace. Il a flairé un crime. Cela empeste chez vous.
Quel crime?
Rakitine voulait évidemment se délier la langue.
C'est dans votre famille qu'il aura lieu, ce crime. Entre tes frères et ton riche papa. Voilà pourquoi le père Zosime s'est cogné le front à tout hasard.
Ensuite, qu'arrivera-t-il?
Ah, cela avait été prédit par le saint ermite. Il a prophétisé.
Pourtant, quelle prophétie y a-t-il à s'être cogné le front?
Non, dira-t-on, c'est un symbole, une allégorie, Dieu sait quoi encore.
Ce sera divulgué et rappelé. Il a deviné le crime, désigné le criminel.
Les innocents agissent toujours ainsi. Ils font sur le cabaret le signe de la croix et lapident le temple.
De même, ton staré. Pour un sage, des coups de bâton, mais devant un assassin, des courbettes.
Quel crime ! Devant quel assassin ? Qu'est-ce que tu racontes ?
Alyosha resta comme cloué sur place. Rakitine s'arrêta également.
Lequel ? Comme si tu ne savais pas. Je parie que tu y as déjà pensé.
À propos, c'est curieux. Écoute, Alyosha,
tu dis toujours la vérité, bien que tu t'assoies toujours entre deux chaises. Y as-tu pensé ou non? Réponds.
J'y ai pensé, répondit Alyosha à voix basse.
Rakitine se troubla.
Comment?
Toi aussi, tu y as déjà pensé, s'écria-t-il.
Ce n'est pas que j'y ai pensé, murmura Alyosha. Mais tu viens de dire, si à propos des choses si étranges, qu'il m'a semblé l'avoir pensé moi-même.
Tu vois, aujourd'hui, en regardant ton père et ton frère Mitya, tu as songé à un crime, donc je ne me trompe pas.
Attends un peu, l'interrompit Alyosha troublé.
À quoi vois-tu tout cela? Et d'abord, pourquoi cela t'intéresse-t-il tant?
Deux questions différentes. Mais naturel. Je répondrai à chacune séparément.
À quoi je le vois?
Je n'aurais rien vu si je n'avais compris aujourd'hui Dmitri Fiodorovitch, ton frère, d'un seul coup et en entier, tel qu'il est, d'après une certaine ligne. Chez ces gens très honnêtes, mais sensuels, il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir. Autrement, il frappera même son père avec un couteau. Or, son père est un ivrogne et un débauché effréné, qui n'a jamais connu la mesure en rien. Aucun des deux ne se contiendra. Et vlan, tous les deux dans le fossé.
Non, Micha, si ce n'est que cela, tu me réconfortes. Cela n'ira pas si loin.
Mais pourquoi trembles-tu tant? Sais-tu pourquoi?
Pour honnête homme que soit ton Mitya,
car il est bête, mais honnête.
C'est avant tout un sensuel. Voilà le fond de sa nature. Son père lui a transmis son abjecte sensualité.
Dis-moi, Alyosha, il y a une chose qui m'étonne. Comment se fait-il que tu sois vierge? Tu es pourtant un Karamazov. Dans votre famille, la sensualité va jusqu'à la frénésie. Or, ces trois êtres sensuels s'épient maintenant, le couteau dans la poche. Trois se sont cognés le front. Pourquoi ne serais-tu pas le quatrième?
Tu te trompes au sujet de cette femme. Dmitri la méprise,
proféra Alyosha frémissant.
Grushenka? Non, mon cher, il ne la méprise pas, puisqu'il a abandonné publiquement sa fiancée pour elle. C'est donc qu'il ne la méprise pas.
Il y a là, mon cher, quelque chose que tu ne comprends pas encore.
Qu'un homme s'éprenne du corps d'une femme, même seulement d'une partie de ce corps,
un voluptueux me comprendrait tout de suite.
Il livrera pour elle ses propres enfants, il vendra son père, sa mère et sa patrie.
Honnête, il ira voler. Doux, il assassinera. Fidèle, il trahira. Le chantre des pieds féminins, Pouchkine, les a célébrés en vers. D'autres ne les chantent pas, mais ne peuvent les regarder de sang-froid. Mais il n'y a pas que les pieds. En pareil cas, le mépris est impuissant. Ton frère méprise Grushenka, mais il ne peut s'en détacher.
Je comprends cela, lança soudain Alyosha.
Vraiment? Et pour l'avouer dès le premier mot, il faut absolument que tu le comprennes, déclara Rakitine avec une joie mauvaise.
Cela t'a échappé par hasard. L'aveu n'en est que plus précieux.
Par conséquent, la sensualité est pour toi un sujet connu. Tu y as déjà songé.
Ah, la sainte n'y touche.
Tu es un saint, Alyosha, j'en conviens, mais tu es aussi une sainte n'y touche. Et le diable sait ce à quoi tu n'as pas déjà songé. Le diable sait ce que tu connais déjà. Tu es vierge, mais tu as déjà pénétré bien des choses. Il y a longtemps que je t'observe. Tu es un Karamazov, tu l'es tout à fait.
Donc, la race et la sélection signifient quelque chose. Tu es sensuel par ton père et innocent par ta mère.
Pourquoi trembles-tu? Aurais-je raison? Sais-tu que Grushenka m'a dit
« Amène-le,
c'est-à-dire toi. Je lui arracherai son froc. »
Et comme elle insistait, je me suis demandé pourquoi elle était si curieuse de toi.
Sais-tu que c'est aussi une femme extraordinaire?
« Tu lui diras que je n'irai pas. Jure-le-moi, » dit Alyosha avec un sourire contraint.
« Achève ton propos, Misha. Je te dirai ensuite mon idée. »
« À quoi bon achever? C'est bien clair. Vieille chanson que tout cela, mon cher. Si tu as un tempérament sensuel, que sera-ce de ton frère Ivan, fils de la même mère? Car lui aussi est un Karamazov. Or, tous les Karamazov sont de nature sensuelle, âpres au gain, et dément. Ton frère Ivan s'amuse maintenant à écrire des articles de théologie. Calcul stupide, puisqu'il est athée. Et il avoue cette bassesse. En outre, il est en train de conquérir la fiancée de son frère Mitya et paraît près du but.
Comment cela? Avec le consentement de Mitya lui-même, parce que celui-ci lui cède sa fiancée à seule fin de se débarrasser d'elle pour rejoindre Grushenka.
Et tout cela, note-le, nonobstant sa noblesse et son désintéressement.
Ces individus-là sont les plus fatals.
Allez-vous y reconnaître après cela.
Tout en ayant conscience de sa bassesse, il se conduit bassement.
Mais écoute la suite.
Un vieillard barre la route à Mitya, son propre père, car celui-ci est follement épris de Grushenka. L'eau lui vient à la bouche rien qu'à la regarder. C'est uniquement à cause d'elle, parce que Miusov avait osé la traiter de créature dépravée, qu'il vient de faire tout ce scandale.
Il est plus amoureux qu'un chat.
Auparavant, elle était seulement à son service pour certaines affaires louches. Maintenant, après l'avoir bien examinée, il s'est aperçu qu'elle lui plaisait. Il s'acharne après elle et lui fait des propositions.
Des honnêtes, s'entend.
Eh bien, c'est ici que le père et le fils se heurtent.
Mais Grushenka se réserve. Elle hésite encore et taquine les deux.
Examine lequel est le plus avantageux, car si on peut soutirer beaucoup d'argent au père. En revanche, il n'épousera pas et finira peut-être par fermer sa bourse. Tandis que ce gueux de Mitya peut lui offrir sa main.
Oui, il en est capable. Il abandonnera sa fiancée.
Une beauté incomparable. Catherine Ivanovna, riche, noble et fille de colonel. Pour se marier avec Grushenka, naguère entretenue par Samsonov, un vieux marchand, moujik dépravé et maire de la ville. De tout ceci, il peut vraiment résulter un conflit et un crime. C'est ce qu'attend ton frère Ivan. Il fait ainsi coup double. Il prend possession de Catherine Ivanovna, pour laquelle il se consume, et empoche une dot de 60 000 roubles. Pour un pauvre air comme lui, ce n'est pas à dédaigner. Et remarque bien, non seulement, ce faisant, il n'offensera pas Mitya, mais celui-ci lui en saura gré jusqu'à sa mort. car je sais de bonne source que la semaine dernière, Mitya, se trouvant ivre dans un restaurant avec des tziganes, s'est écrié qu'il était indigne de Katineka, sa fiancée, mais que son frère Ivan en était digne. Catherine Ivanovna elle-même finira par ne pas repousser un charmeur comme Ivan Fiodorovitch. Elle hésite déjà entre eux. Mais par quoi diantre cet Ivan a-t-il pu vous séduire pour que vous soyez tous en extase devant lui? Il se rit de vous. « Je suis aux anges, prétend-il, et je festoie à vos dépens. » D'où sais-tu tout cela? Pourquoi parles-tu avec une telle assurance? Demanda soudain Alyosha en fronçant le sourcil. Et pourquoi m'interroges-tu tout en craignant à l'avance ma réponse? Cela signifie que tu reconnais que j'ai dit la vérité. Tu n'aimes pas Ivan. Ivan ne se laisse pas séduire par l'argent. Vraiment? Et la beauté de Catherine Ivanovna? Il ne s'agit pas seulement d'argent, bien que 60 000 roubles soient fort attrayants. Ivan regarde plus haut. Des milliers de roubles ne l'éblouiraient pas. Ce n'est ni l'argent ni la tranquillité qu'il recherche. Ivan cherche peut-être la souffrance. Qu'est-ce encore que ce songe? Hé, vous autres, nobliaux! Micha, son âme est impétueuse et son esprit captif. Il y a en lui une grande pensée dont il n'arrive pas à trouver la clé. Il est de ceux qui n'ont pas besoin de millions, mais de résoudre leurs pensées. C'est un plagiat, Alyosha. Tu paraphrases ton staré. Ivan vous a proposé une énigme, cria avec une visible animosité Rakitine, dont le visage s'altéra et les lèvres se contractèrent. Et une énigme stupide, il n'y a rien à deviner. Fais un petit effort et tu comprendras. Son article est ridicule et inepte. Je viens de l'entendre développer son absurde théorie. Pas d'immortalité de l'âme, donc pas de vertu, ce qui veut dire que tout est permis. Tu te rappelles que ton frère Mitya s'est écrié? Je m'en souviendrai. C'est une théorie séduisante pour les gredins. Non, pas les gredins, j'ai tort de m'emporter, mais les fanfarons de l'école doués d'une profondeur de pensée insoluble. C'est un hâbleur, et sa sotte théorie n'est pas autre chose que bonnet blanc et blanc bonnet. D'ailleurs, sans croire à l'immortalité de l'âme, l'humanité trouve en elle-même la force de vivre pour la vertu. Elle la puise dans son amour de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Rakitine, qui s'était échauffé, avait peine à se contenir. Mais tout à coup, il s'arrêta, comme s'il se rappelait quelque chose. « Eh bien, en voilà assez » fit-il avec un sourire encore plus contraint. « Pourquoi ris-tu? Tu penses que je suis un pied plat ?»« Non, je n'y songeais même pas. Tu es intelligent, mais laissons cela. J'ai souri par bêtise. Je comprends que tu t'échauffes, Micha. J'ai deviné à ton emballement que Catherine Ivanovna te plaisait. D'ailleurs, il y a longtemps que je m'en doutais. Voilà pourquoi tu n'aimes pas Ivan. » Tu es jaloux de lui. Et aussi de son argent à elle, va jusqu'au bout. Non, je ne veux pas t'offenser. Je le crois, puisque tu le dis. Mais que le diable vous emporte, toi et ton frère Ivan. Aucun de vous ne comprend que, Catherine Ivanovna mise à part, il est fort peu sympathique. Quelle raison aurais-je de l'aimer, sapristi? Il me fait l'honneur de m'injurier. N'ai-je pas le droit de lui rendre l'appareil? Je ne l'ai jamais entendu dire ni bien ni mal de toi. Eh bien, on m'a rapporté qu'avant-hier, chez Catherine Ivanovna, il m'a arrangé de la belle manière, tant il s'intéressait à votre serviteur. Après cela, j'ignore, mon cher, lequel est jaloux de l'autre. Il lui a plu d'insinuer que si je ne me résigne pas à la carrière d'archimandrite, si je ne prends pas le froc dans un avenir fort rapproché, je partirai pour Pétersbourg, j'entrerai dans une grande revue en qualité de critique et finirai au bout d'une dizaine d'années par devenir propriétaire de la revue. Je lui imprimerai alors une tendance libérale et athée. Voilà un certain vernis de socialisme, mais en prenant mes précautions, c'est-à-dire en nageant entre deux eaux et en donnant le change aux imbéciles. Toujours d'après ton frère, malgré cette teinte de socialisme, je placerai mes bénéfices à la banque, spéculerai à l'occasion par l'entremise d'un juivaillon quelconque et me ferai finalement bâtir une maison de rapport où j'installerai ma rédaction. Il a même désigné l'emplacement de cet immeuble. Ce sera près du nouveau pont de pierre que l'on projette, paraît-il, entre la perspective Litenaïa et le quartier de Viborg.
Ah ! Misha, cela se réalisera peut-être de point en point !
S'écria Alyosha, qui ne put retenir un rire joyeux.
Et vous aussi, vous raillez, Alexei Fiodorovitch !
Non, non, je plaisante, excuse-moi. Je pensais à tout autre chose. Mais dis-moi, qui a pu te communiquer tous ces détails ? Tu n'étais pas chez Catherine Ivanovna quand il parlait de toi ?
Non,
mais Dmitri Fiodorovitch s'y trouvait, et je l'ai entendu le répéter, c'est-à-dire que j'ai écouté, malgré moi, dissimulé dans la chambre à coucher de Krushenka, d'où je ne pouvais sortir en sa présence.
Ah oui, j'oubliais, c'est ta parente.
Ma parente ? Cette Krushenka serait ma parente ? S'écria Rakitine tout rouge.
As-tu perdu l'esprit ? Tu as le cerveau dérangé.
Comment, ce n'est pas ta parente ? Je l'ai entendu dire.
Où cela ?
Ah, messieurs Karamazov, vous prenez des airs de haute et vieille noblesse alors que ton père faisait le bouffon à la table d'autrui et figurait par grâce à la cuisine. Je ne suis qu'un fils de pope, un vil roturier à côté de vous, soit. Mais ne m'insultez pas avec un si joyeux sans-gêne. J'ai aussi mon honneur, Alexei Fiodorovitch. Je ne saurais être le parent d'une fille publique.
Rakitine était violemment surexcité. Excuse-moi, je t'en supplie. Je n'aurais jamais cru, d'ailleurs, qu'elle fût vraiment une fille.
Repartit Alyosha, devenu cramoisi. Je te le répète, on m'a dit que c'était ta parente. Tu vas souvent chez elle, et tu m'as dit toi-même qu'il n'y avait rien entre vous. Je n'aurais jamais cru que tu la méprisais tant. Le mérite-t-elle vraiment ?
Si je la fréquente, c'est que j'ai mes raisons pour cela. Mais en voilà assez.
Quant à la parenté, c'est plutôt dans ta famille que ton frère ou même ton père la ferait entrer. Mais nous voici arrivés. Va vite à la cuisine.
Hé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'arrive-t-il ? Serions-nous en retard ?
Mais ils ne peuvent pas avoir déjà fini.
À moins que les Karamazov n'aient encore fait des leurs.
Ce doit être cela. Voici ton père et Ivan Fiodorovitch qui le suit.
Ils se sont sauvés de chez le père abbé. Voilà le père Isidore sur le perron qui crie quelque chose dans leur direction. Et ton père qui agite les bras en hurlant, sans doute des injures. Voilà Miusov qui part en calèche. Tu le vois filer ? Maximov court comme un dératé. C'est un vrai scandale. Le dîner n'a pas eu lieu. Aurait-il battu le père abbé ? Les aurait-on rossés ? Il l'aurait bien mérité.
Rakitine avait deviné juste. Un scandale inouï s'était déroulé, comme par inspiration. Chapitre 8. Un scandale. Lorsque Miusov et Ivan Fiodorovitch arrivèrent chez le père abbé, Piotr Alexandrovitch, qui était un galant homme, eut honte de sa récente colère. Il comprit qu'au lieu de s'emporter, il aurait dû estimer à sa juste valeur le pitoyable Fiodor Pavlovitch et conserver tout son sang-froid. « Les moines n'ont rien à se reprocher, » décida-t-il soudain sur le perron de l'abbé. « S'il y a ici des gens comme il faut, le père Nicolas, l'abbé, appartient, paraît-il, à la noblesse. Pourquoi ne me montrerais-je pas aimable avec eux ? Je ne discuterai pas. Je ferai même chorus, je gagnerai leur sympathie. Enfin, je leur prouverai que je ne suis pas le compère de cet Ésope, de ce bouffon, de ce saltimbanque, et que j'ai été trompé tout comme eux. » Il résolut de leur céder définitivement, et sur l'heure, ses droits de coupe et de pêche, et cela d'autant plus volontiers qu'il s'agissait en fait d'une bagatelle. Ses bonnes intentions s'affirmèrent encore lorsqu'ils entrèrent dans la salle à manger du père abbé. Ce n'en était pas une, à vrai dire, car il n'avait en tout que 2 pièces à lui, d'ailleurs beaucoup plus spacieuses et plus commodes que celles du Staret. L'ameublement ne brillait pas par le confort. Les meubles étaient d'acajou et recouverts en cuir, à l'ancienne mode de 1820. Les planchers n'étaient même pas peints. En revanche, tout reluisait de propreté. Il y avait aux fenêtres beaucoup de fleurs chères. Mais la principale élégance résidait en ce moment dans la table servie avec une somptuosité relative. La nappe était immaculée, la vaisselle étincelait. Sur la table reposaient 3 sortes d'un pain parfaitement cuit, 2 bouteilles de vin, 2 pots de l'excellent hydromel du monastère et une grande carafe pleine d'un kvass réputé aux environs. Il n'y avait pas de vodka. Rakitin raconta par la suite que le dîner comprenait cette fois 5 plats. Une soupe au sterlet avec des bouchées au poisson, un poisson au courbouillon accommodé d'après une recette spéciale et délicieuse, des quenelles d'esturgeon, des glaces et de la compote. Enfin, du kissel en manière de blanc-manger. Incapable de se contenir, Rakitin avait flairé tout cela et jeté un coup d'œil à la cuisine du père abbé, où il avait des relations. Il en possédait d'ailleurs partout et apprenait ainsi tout ce qu'il voulait savoir. C'était un cœur tourmenté, envieux. Il avait pleine conscience de ses dons indiscutables et s'en faisait même, dans sa présomption, une idée exagérée. Il se savait destiné à jouer un rôle. Mais Alyosha, qui lui était fort attaché, s'affligeait de le voir dépourvu de conscience, et cela sans que le malheureux s'en rendît compte lui-même. Sachant en effet qu'il ne déroberait jamais de l'argent à sa portée, Rakitin s'estimait parfaitement honnête. À cet égard, ni Alyosha ni personne n'aurait pu lui ouvrir les yeux. Rakitin était un trop mince personnage pour figurer au repas. En revanche, le père Joseph et le père Paisius avaient été invités, ainsi qu'un autre religieux. Ils attendaient déjà dans la salle à manger, lorsque Piotr Alexandrovitch, Kalganov et Ivan Fiodorovitch firent leur entrée. Le propriétaire Maximov se tenait à l'écart. Le père abbé s'avança au milieu de la pièce pour accueillir ses invités. C'était un grand vieillard, maigre, mais encore vigoureux, aux cheveux noirs, déjà grisonnants, au long visage émacié et grave. Il salua ses hôtes en silence, et ceux-ci vinrent cette fois recevoir sa bénédiction. Miousov tenta même de lui baiser la main, mais l'abbé prévint son geste en la retirant. Ivan Fiodorovitch et Kalganov allèrent jusqu'au bout, faisant claquer leurs lèvres à la façon des gens du peuple. « Nous devons vous faire toutes nos excuses, mon révérend père !» commença Piotr Alexandrovitch avec un gracieux sourire, mais d'un ton grave et respectueux. « Car nous arrivons seuls, sans notre compagnon Fiodor Pavlovitch que vous aviez invité. Il a dû renoncer à nous accompagner, et non sans cause. Dans la cellule du révérend père Zosime, emporté par sa malheureuse querelle avec son fils, il a prononcé quelques paroles fort déplacées, fort inconvenantes, ce dont votre révérence doit avoir déjà connaissance, ajouta-t-il avec un regard du côté des religieux. Aussi, conscient de sa faute et la déplorant sincèrement, il a éprouvé une honte insurmontable et nous a prié, son fils Ivan et moi, de vous exprimer son sincère regret, sa contrition, son repentir. Bref, il espère tout réparer par la suite. Pour le moment, il implore votre bénédiction et vous prie d'oublier ce qui s'est passé. » Miousov se tut. Arrivé vers la fin de sa tirade, il se sentit si parfaitement content de lui qu'il en oublia sa récente irritation. Il éprouvait de nouveau un vif et sincère amour pour l'humanité. Le père abbé, qui l'avait écouté gravement, inclina la tête et répondit. « Je regrette vivement son absence. Participant à ce repas, peut-être nous eût-il pris en affection, et nous de même. Messieurs, veuillez prendre place. » Il se plaça devant l'image et commença une prière. Tous s'inclinèrent respectueusement. et le propriétaire Maximov se plaça même en avant, les mains jointes, en signe de particulière dévotion. Ce fut alors que Fiodor Pavlovitch vida son sac. Il faut noter qu'il avait eu vraiment l'intention de partir, et compris l'impossibilité, après sa honteuse conduite chez le staré, d'aller dîner chez le père abbé comme si de rien n'était. Ce n'est pas qu'il eut grande honte et se fit d'amers reproches, tout bien au contraire. Néanmoins, il sentait l'inconvenance d'aller dîner. Mais à peine sa calèche au ressort gémissant fut-elle avancée au perron de l'hôtellerie qu'il s'arrêta avant d'y monter. Il se rappela ses propres paroles chez le staré. « Quand je vais chez les gens, il me semble toujours que je suis le plus vil de tous et que tous me prennent pour un bouffon. Alors je me dis, faisons vraiment le bouffon, car tous jusqu'au dernier, vous êtes plus bêtes et plus vils que moi. » Il voulait se venger sur tout le monde de ses propres vilainies. Il se rappela soudain qu'un beau jour, comme on lui demandait « Pourquoi détestez-vous tant telle personne ?» Il avait répondu dans un accès d'effronterie bouffonne « Elle ne m'a rien fait, c'est vrai, mais moi, je lui ai joué un vilain tour, et aussitôt après, j'ai commencé à la détester. » Ce sourire lui arracha un mauvais rire silencieux. Les yeux étincelants, les lèvres tremblantes, il eut une minute d'hésitation. Mais soudain, « Puisque j'ai commencé, il faut aller jusqu'au bout, » décida-t-il. « Je ne saurais me réhabiliter. Narguons-les donc jusqu'à l'impudence. Je me fous de vous, et basta. » Il ordonna au cocher d'attendre et retourna à grands pas au monastère, droit chez le père abbé. Il ignorait encore ce qu'il ferait, mais il savait qu'il ne se possédait plus, que la moindre impulsion lui ferait commettre quelque indigne sortie, sinon quelque délit dont il aurait à répondre devant les tribunaux. En effet, il ne dépassait jamais certaines limites, ce qui ne laissait pas de le surprendre. Il parut dans la salle à manger au moment où, la prière finie, on allait se mettre à table. Il s'arrêta sur le seuil, examina la compagnie en fixant les gens bien en face et éclata d'un rire prolongé, impudent. « Il me croyait parti, et me voilà » cria-t-il d'une voix retentissante. Les assistants le considérèrent un instant en silence, et soudain, tous sentirent qu'un scandale était inévitable. Piotr Alexandrovitch passa brusquement de la quiétude à la plus méchante humeur. Sa colère éteinte se ralluma, son indignation apaisée gronda tout d'un coup. « Non, je ne puis supporter cela » hurla-t-il. « J'en suis incapable, absolument incapable !» Le sang lui montait à la tête. Il s'embrouillait, mais ce n'était pas le moment de faire du style, et il prit son chapeau. « De quoi est-il incapable ?» s'écria Fiodor Pavlovitch. « Votre révérence, dois-je entrer ou non ? M'acceptez-vous comme convive ?»« Nous vous en prions de tout cœur, » répondit l'abbé. « Messieurs, ajouta-t-il, je vous supplie de laisser en repos vos querelles fortuites, de vous réunir dans l'amour et l'entente fraternelle en implorant le Seigneur à notre paisible table. » « Non, non, c'est impossible !» cria Piotr Alexandrovitch hors de lui. « Ce qui est impossible à Piotr Alexandrovitch l'est également à moi. Je ne resterai pas. C'est pourquoi je suis venu. Je ne vous quitte plus d'une semelle, Piotr Alexandrovitch. Si vous vous en allez, je m'en vais. Si vous restez, je reste. Vous l'avez piqué par-dessus tout en parlant d'entente fraternelle, père abbé. Il ne veut pas s'avouer mon parent. N'est-ce pas, von John ? Tiens, voilà son son. Bonjour, von John.
C'est à moi que... »
murmura Maximov stupéfait.
« À toi, bien sûr, votre révérence. Savez-vous qui est von Sonn ? C'est le héros d'une cause célèbre. On l'a tué dans un lupanar. C'est ainsi, je crois, que vous appelez ces endroits. Tué et dépouillé. Puis, malgré son âge respectable, fourré dans une caisse et expédié de Pétersbourg à Moscou dans le fourgon aux bagages, avec une étiquette.
et pendant l'opération, les filles de joie chantaient des chansons et jouaient du tympanon, c'est-à-dire du piano. Eh bien, ce personnage n'est autre que Vonson, ressuscité d'entre les morts. N'est-ce pas, Vonson ?
Qu'est-ce à dire ?
S'écrièrent plusieurs voix dans le groupe des religieux.
Allons-nous-en !
Jeta Piotr Alexandrovitch à Kalganov.
Non, permettez !
Glapit Fiodor Pavlovitch, faisant encore un pas dans la chambre.
Laissez-moi terminer !
Là-bas, dans la cellule du staré, vous m'avez blâmé d'avoir soi-disant perdu le respect. Et cela parce que j'avais parlé de goujon.
Piotr Alexandrovitch Miousov, mon parent, aime qu'il y ait dans le discours plus de noblesse que de sincérité. Moi, au contraire, j'aime que mon discours ait plus de sincérité que de noblesse. Et tant pis pour la noblesse.
N'est-ce pas, Vonson ?
Permettez, père abbé. Bien que je sois un bouffon et que j'en tienne le rôle, je suis un chevalier de l'honneur, et je tiens à m'expliquer. Oui, je suis un chevalier de l'honneur, tandis que chez Piotr Alexandrovitch, il n'y a que de l'amour-propre offensé. Je suis venu ici, voyez-vous, pour observer ce qui s'y passe et vous dire ma façon de penser. Mon fils Alexei fait son salut chez vous, je suis père. Je me préoccupe de son sort, et c'est mon devoir. Tandis que je me donnais en représentation, j'écoutais tout. Je regardais sans avoir l'air. Et maintenant, je veux vous offrir le dernier acte de la représentation. D'ordinaire, chez nous, ce qui tombe reste étendu à jamais. Mais moi, je veux me relever. Mes pères, je suis indigné de votre façon d'agir. La confession est un grand sacrement que je vénère, devant lequel je suis prêt à me prosterner. Or, là-bas, dans la cellule, tout le monde s'agenouille et se confesse à haute voix. Est-il permis de se confesser à haute voix ? De toute antiquité, les saints-pères ont institué la confession auriculaire et secrète. En effet, comment puis-je expliquer devant tout le monde que moi, par exemple, je... ceci et cela, enfin vous comprenez. Il est parfois indécent de révéler certaines choses. N'est-ce pas un scandale ? Non, mes pères, avec vous, on peut être entraîné dans la secte des Clistis. À la première occasion, j'écrirai au synode. En attendant, je retire mon fils de chez vous.
Notez que Fiodor Pavlovitch avait entendu le son de certaines cloches. À en croire des bruits malveillants, parvenus naguère jusqu'à l'oreille des autorités ecclésiastiques, dans les monastères où subsistait cette institution, on témoignait aux starsti un respect exagéré, au préjudice de la dignité de l'abbé. Ils abusaient du sacrement de la confession, etc. Accusations ineptes qui tombèrent d'elles-mêmes, chez nous comme partout. Mais le démon qui s'était emparé de Fiodor Pavlovitch et l'emportait toujours plus loin dans un abîme de honte, lui avait soufflé cette accusation, à laquelle d'ailleurs il ne comprenait goutte. Il n'avait même pas su la formuler convenablement, d'autant plus que cette fois, dans la cellule du staré, personne ne s'était ni agenouillé ni confessé à haute voix. Fiodor Pavlovitch n'avait donc rien pu voir de pareil et rééditait tout bonnement les anciens commérages qu'il se rappelait tant bien que mal. Cette sottise à peine débitée, il en sentit l'absurdité et voulut aussitôt prouver à ses auditeurs, et surtout à lui-même, qu'il n'avait rien dit d'absurde. Et bien qu'il sût parfaitement que tout ce qu'il dirait ne ferait qu'aggraver cette absurdité, il ne put se contenir et glissa comme sur une pente.
« Quelle vilenie ! » cria Piotr Alexandrovitch. « Excusez, » dit soudain le père abbé, « il a été dit autrefois... On a commencé à parler beaucoup de moi, et même à en dire du mal. Après avoir tout écouté, je me dis « C'est un remède envoyé par Jésus pour guérir mon âme vaniteuse. » Aussi, nous vous remercions humblement, très cher hôte. »
Et il fit un profond salut à Fiodor Pavlovitch.
« Ta ta ta, bigoterie que tout cela ! Vieilles phrases et vieux gestes, vieux mensonges et formalismes des saluts jusqu'à terre. Nous les connaissons, ces saluts.
un baiser aux lèvres et un poignard au cœur, comme dans les brigands de Schiller. Je n'aime pas la fausseté, mes pères. C'est la vérité que je veux. Mais la vérité ne tient pas dans les goujons, et je l'ai proclamée. Moine, pourquoi jeûnez-vous? Pourquoi en attendez-vous une récompense au ciel? Pour une telle récompense, moi aussi je suis prêt à jeûner. Non, saint moine, sois vertueux dans la vie. Sers la société sans t'enfermer dans un monastère où l'on te défraie de tout, et sans attendre de récompense là-haut, ce qui sera plus méritoire. Comme vous voyez, je sais aussi faire des phrases, père abbé. Qu'ont-il là? Continua-t-il en s'approchant de la table. Du Porto vieux de chez Fartori? Du Médoc de chez les frères Lélisseyev? Eh, eh, mes bons pères, voilà qui ne ressemble pas au goujon. Regardez-moi ces bouteilles. Eh, eh, mais qui vous a procuré tout cela? C'est le paysan russe, le travailleur qui vous apporte son offrande, gagnée avec ses mains calleuses, enlevée à sa famille et aux besoins de l'État. Vous exploitez le peuple, mes révérends. C'est vraiment indigne de votre part, proféra le père Joseph. Le père Paisius gardait un silence obstiné. Miousov s'élança hors de la chambre, suivi de Kalganov. « Eh bien, mes pères, je vais suivre Piotr Alexandrovitch. Je ne reviendrai plus. Dussiez-vous m'en prier à genoux? Non, plus jamais. Je vous ai envoyé 1000 roubles, et cela vous a fait ouvrir de grands yeux. Mais je n'ajouterai rien. Je venge ma jeunesse passée et les humiliations endurées. » Il frappa du poing sur la table dans un accès de feinte indignation. Ce monastère a joué un grand rôle dans ma vie. Que de larmes amères j'ai versées à cause de lui. Vous avez tourné contre moi ma femme, la possédée. Vous m'avez chargé de malédictions, décrié dans le voisinage. En voilà assez, mes révérends. Nous vivons à une époque libérale, au siècle des bateaux à vapeur et des chemins de fer. Vous n'aurez rien de moi, ni 1000 roubles, ni 100. Même pas un. Notez encore que jamais notre monastère n'avait tenu une telle place dans sa vie, que jamais il ne lui avait fait verser de larmes amères. Mais Fiodor Pavlovitch s'était tellement emballé à propos de ses larmes imaginaires qu'il fut bien près d'y croire. Il en aurait pleuré d'attendrissement. Il sentit cependant qu'il était temps de faire machine arrière. Pour toute réponse à son haineux mensonge, le père abbé inclina la tête et prononça de nouveau d'un ton grave. Il est encore écrit « Supporte patiemment la calomnie dont tu es victime et ne te trouble pas, loin de détester celui qui en est l'auteur. Nous agirons en conséquence. » « Ta ta ta, le beau Galimatia! Continuez, mes pères, moi je m'en vais. Je reprendrai définitivement mon fils Alexeï, en vertu de mon autorité paternelle. Ivan Fiodorovitch, mon très révérencieux fils, permettez-moi de vous ordonner de me suivre. Vonson, à quoi bon rester ici? Viens chez moi. Ce n'est qu'à une verste d'ici. On ne s'y ennuie pas. Au lieu d'huile de lin, je te donnerai un cochon de lait farci au sarrasin. Je t'offrirai du cognac, des liqueurs. Il y aura même une jolie fille. Eh, Vonson, ne laisse pas passer ton bonheur. » Il sortit en criant et en gesticulant. C'est à ce moment que Rakitine l'aperçut et le désigna à Alyosha. « Alexeï !» lui cria son père de loin. « Viens t'installer chez moi dès aujourd'hui. Prends ton oreiller, ton matelas, et qu'il ne reste rien de toi ici. » Alyosha s'arrêta comme pétrifié, observant attentivement cette scène sans souffler mot. Fiodor Pavlovitch monta en calèche, suivi d'Ivan Fiodorovitch, silencieux et morne, qui ne se retourna même pas pour saluer son frère. Mais pour couronner le tout, il se passa alors une scène de saltimbanque, presque invraisemblable. Maximov accourait, tout essoufflé. Dans son impatience, il risqua une jambe sur le marchepied où se trouvait encore celle d'Ivan Fiodorovitch, et, se cramponnant au coffre, il essaya de monter. « Moi aussi, je vous suis !» cria-t-il en sautillant, avec un rire gai et un air de béatitude. « Emmenez-moi » « Eh bien, n'avais-je pas raison de dire que c'était Vonson ? s'écria Fiodor Pavlovitch enchanté. « Le véritable Von Sohn, ressuscité d'entre les morts !»«
Comment t'es-tu sorti de là? Qu'est-ce que tu y fabriquais? Et comment as-tu pu renoncer au dîner? Il faut avoir pour cela un front d'airain. »«
J'en ai un, moi, mais je m'étonne du tien, camarade. »«
Saute, saute plus vite. Laisse-le monter, Ivan, on s'amusera. Il va s'étendre à nos pieds, n'est-ce pas, Von Sohn? Préfères-tu t'installer sur le siège avec le cocher? Saute sur le siège, Von Sohn. »
Mais Ivan Fiodorovitch, qui avait déjà pris place sans mot dire, repoussa d'une forte bourrade dans la poitrine Maximov qui recula d'une toise. S'il ne tomba pas, ce fut un pur hasard.
« En route !»
cria d'un ton hargneux Ivan au cocher.
« Eh bien, que fais-tu? Que fais-tu? Pourquoi le traiter ainsi ?»
objecta Fiodor Pavlovitch. La calèche était déjà partie, Ivan ne répondit rien.
« Voilà comme tu es !»
reprit Fiodor Pavlovitch après un silence de 2 minutes en regardant son fils de travers. « Car c'est toi qui as imaginé cette visite au monastère, qui l'a provoquée et approuvée. Pourquoi te fâcher maintenant ?»«
Trêve d'insanité et reposez-vous donc un peu !»
répliqua Ivan d'un ton rude. Fiodor Pavlovitch se tut encore 2 minutes.
« Un petit verre de cognac me ferait du bien !»
déclara-t-il alors d'un ton sentencieux. Ivan ne répondit rien.
Hey, « Hé, quand nous serons arrivés, tu en prendras bien aussi un verre !»
Ivan ne soufflait toujours mot. Fiodor Pavlovitch attendit encore 2 minutes.
« Bien que cela vous soit fort désagréable, révérencieux Karl von Mohr, je retirerai pourtant Alyosha du monastère. »
Ivan haussa dédaigneusement les épaules, se détourna, se mit à regarder la route. Ils n'échangèrent plus un mot jusqu'à la maison.